écoutez RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
Johann Burgel.
Bonsoir, voici votre journal en français facile. Une surprise aux États-Unis, les chiffres du chômage repartent à la baisse pour le mois de mai. L'économie américaine a créé 2,5 millions d'emplois. Les États-Unis, justement, toujours sous le choc, une dizaine de jours après la mort de George Floyd. Une cérémonie d'hommage a notamment eu lieu à Minneapolis, ville où cet Afro-Américain a été étouffé par le genou d'un policier blanc pendant son arrestation. Enfin, en Libye, les forces pro-gouvernementales ont repris la ville de Tarouna, un tournant dans le conflit depuis l'offensive lancée par le maréchal Haftar pour s'emparer de la capitale Tripoli.
Le journal
en français facile.
En français facile.
Ce sont des chiffres qui créent la surprise aux États-Unis. Les derniers chiffres du chômage, ceux du mois de mai, sont en baisse. Les économistes prévoyaient de nouvelles suppressions de postes, notamment en raison de la pandémie de coronavirus. Pourtant, contre toute attente, 2,5 millions d'emplois ont été créés. Une bonne nouvelle pour l'économie américaine. Précision, Patricia Lecomte.
C'est un rebond spectaculaire et inattendu. Le taux de chômage des États-Unis en mai est tombé à 13,3% contre 14,7% en avril, son plus haut niveau depuis 1948. Ces bons résultats déjouent les prévisions des analystes les plus pessimistes qui tablaient sur un taux proche de 20%. Malgré la violence du choc économique dû à la pandémie de coronavirus, l'économie américaine a réussi à créer 2,5 millions d'emplois non agricoles. Le nombre de chômeurs a baissé d'un peu plus de 2 millions pour s'établir au mois de mai à 21 millions dans le pays. Ces créations de postes représentent un espoir pour les millions d'Américains qui ont perdu leur travail et marquent le redémarrage de l'activité économique aux États-Unis. Les secteurs qui repartent sont ceux des loisirs, de la santé, de l'éducation, de la construction et de la vente au détail. En revanche, le secteur public continue de perdre des emplois. La crise du coronavirus a accentué les disparités économiques. Le taux de chômage des Américains blancs est de 12,4%, inférieur à celui des Afro-Américains qui est de 16,8% et à celui des Hispaniques qui atteint 17,6%. Des inégalités qui risquent d'exacerber les manifestations antiracistes qui ont lieu actuellement aux États-Unis.
Et nous restons aux États-Unis où les cérémonies se multiplient depuis hier pour rendre hommage à George Floyd. Cet Afro-Américain est mort étouffé par le genou d'un policier blanc. Les cérémonies doivent durer pendant 6 jours jusqu'aux obsèques mardi. La première s'est tenue à l'université chrétienne North Central de Minneapolis, ville où est mort George Floyd. Les participants présents ont gardé le silence pendant près de 9 minutes, le temps qu'a passé le policier à appuyer son genou sur le cou de George Floyd. L'intervention du révérend Al Sharpton a été particulièrement marquante. Et ce n'est pas la première fois qu'il se distingue. Ce pasteur est devenu une figure symbolique de la lutte pour les droits civiques. Marie Normand.
Le pasteur baptiste new-yorkais de 65 ans, également animateur télé et radio, est connu pour ses talents d'orateur. La légende dit qu'Al Sharpton prononce son premier prêche à l'âge de 4 ans. Ordonné pasteur à 9 ans, il fonde adolescent le mouvement national des jeunes contre le racisme. Le point de départ pour cet ami de James Brown, de 50 ans d'engagement dans la lutte pour les droits civiques. Un parcours émaillé de controverses, comme dans les années 80 lorsqu'il prend farouchement la défense d'une jeune femme noire qui prétend à tort avoir subi un viol collectif par 4 hommes blancs. Aujourd'hui, l'organisation qu'il préside, le National Action Network, est un passage obligé de tout aspirant démocrate à la Maison Blanche. Lui-même s'est essayé à la politique. Candidat au poste de sénateur, de maire de New York, il a même brigué l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2004, toujours en vain. Al Sharpton est pourtant incontournable. Celui qui se rêve en Martin Luther King du 21e siècle s'est imposé au fil des ans comme le porte-voix des Afro-Américains en quête de justice, en première ligne de toutes les marches après les affaires Eric Garner, Trayvon Martin ou encore aujourd'hui George Floyd.
Marie Normand. Les manifestations et les rassemblements contre le racisme et les violences policières durent donc depuis 10 jours aux États-Unis et le mouvement se propage dans le reste du monde. Des milliers de Norvégiens ont manifesté ce vendredi et plusieurs rassemblements sont prévus ce week-end, notamment au Royaume-Uni et en France.
Un journal en français facile.
Direction la Libye à présent. Les forces fidèles au gouvernement d'Union nationale de Fayez al-Sarraj ont pris le contrôle de Tarouna. La ville était aux mains du maréchal Haftar. Elle était le dernier poste important de ses troupes. Les forces du gouvernement d'Union sont entrées dans la ville à l'aube jeudi matin sans combat. L'armée nationale libyenne dirigée par Khalifa Haftar s'est repliée d'abord vers cette ville, puis vers la base d'Al-Joufra dans le sud libyen. La prise de Tarouna est une lourde défaite pour le maréchal Haftar qui essayait de s'emparer de Tripoli depuis 14 mois. Précision Ouda Ibrahim.
Il faisait encore nuit quand les troupes du GNA ont fait leur entrée triomphale dans la ville. Elles ont été joyeusement reçues par une partie d'habitants. Tarouna, située à 80 km au sud-est de Tripoli, constituait la base arrière de force de Khalifa Haftar pour l'attaque de la capitale. Tarouna formait le dernier bastion de Khalifa Haftar dans l'ouest libyen. Après le retrait de ses forces des villes stratégiques à l'ouest, ainsi que de la base Al-Wutia, puis de l'aéroport de Tripoli et du sud de la capitale hier. La prise de Tarouna par le GNA marque un tournant dans le conflit libyen. Elle tourne la page d'histoire ouverte quand Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a lancé son offensive pour s'emparer de Tripoli le 4 avril 2019. Symboliquement, la prise de la ville signifie un retour à la case départ pour Khalifa Haftar. Pour le moment, pas de réaction de la part de l'ANL, mais hier, Ahmed El-Mesmari, leur porte-parole, a annoncé le retrait de Tripoli et un redéploiement. Pour lui, le retrait de ses forces est une preuve de bonne volonté suite à la reprise annoncée par l'ONU des pourparlers militaires.
Et le conflit libyen a connu ces derniers mois une implication de plus en plus importante des puissances étrangères. Le soutien militaire accru de l'allié turc a notamment permis au gouvernement d'Union nationale de multiplier les succès sur le terrain. La pandémie de coronavirus a eu de nombreuses conséquences et particulièrement des conséquences économiques importantes, notamment pour les compagnies de croisière. De nombreux navires se sont en effet retrouvés bloqués au large avec certains passagers contaminés. Les autorités des Seychelles ont décidé d'interdire les bateaux de croisière pendant 2 ans. Le but est d'éviter une nouvelle vague de Covid-19. Cette décision s'ajoute à celle prise par de nombreuses autorités portuaires. Résultat, ces navires ont du mal à se procurer des vivres. Reportage à Busan, ville portuaire de Corée du Sud, signé Stéphane Lagarde.
16 000 tonnes d'acier, des cabines pour 4 500 passagers, une coque qui dépasse le haut des immeubles du port de Busan. Malgré une arrivée à l'aube, le Spectrum of the Sea n'est pas passé inaperçu. 9h ce vendredi matin, des curieux tentent d'approcher la ville flottante.
J'habite à côté d'ici et des grands bateaux comme ça, on n'en voit plus depuis l'arrivée du coronavirus. Mais il n'y a pas de touristes, le bateau est vide, il n'y a que des cartons qui montent à bord.
Voilà plus d'un mois que le paquebot fait des ronds dans l'eau et le navire a faim. Ballet des Fenwick, le spectre des mers a cessé les croisières depuis le 13 mars dernier, mais impossible de rester dans son port d'attache de Shanghai, les frais de quai coûtant trop cher. 1000 personnels sont descendus à terre, 550 restent à bord pour faire tourner la bête. Cette autorisation d'escale est un geste humanitaire, explique Kim In-young, directrice du département d'affaires de l'autorité du port de Busan.
Avec le coronavirus, les croisières sont arrêtées et aucun pays ne veut accueillir les navires. Le port de Busan a répondu humainement à la demande du commandant, qui a besoin de carburant et de fournitures alimentaires. Mais nous l'avons fait à certaines conditions imposées par les douanes ainsi que par les autorités maritimes et portuaires.
Aucun symptôme parmi les membres d'équipage pendant les 15 jours précédant l'arrivée, une escale uniquement pour le ravitaillement et derrière des grilles fermées, rendant tout contact impossible entre le navire et les habitants de la deuxième ville de Corée. Le bateau sera reparti au bout de 24 heures. Tel un spectre. Stéphane Lagarde, Busan, RFI.
Et c'est avec ce reportage de notre correspondant Stéphane Lagarde en Corée du Sud que se termine votre journal en français facile. Vous pouvez bien sûr le réécouter sur notre site RFI.fr dans la rubrique Savoir. Merci pour votre fidélité à la Radio du Monde.